Amen. J'aimerais parler sur un enjeu éternel. Dans Genèse 14, à partir du verset 10, il est écrit: La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et de toutes les provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller, c'est qu'il habitait à Gomorre, à Sodome, pardon. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Escol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui, et il les poursuivit, les rois, jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant: Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire: C'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé ces jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Abraham, qui est parti donc de Canaan, qui est parti plutôt en Canaan, parti d'Ur en Chaldée, et qui a réussi à arriver sur la terre promise. Mais là, il a constaté que les Cananéens étaient bien dans le pays. Pourtant, Dieu lui a donné le pays, mais il est habité et il ne peut pas mettre tout le monde dehors. D'autre part, une famine survient et il se retrouve contraint à quitter le pays que Dieu lui a donné. Il va fuir en Égypte, peut-être par manque de foi. Peut-être s'il avait mis sa confiance en Dieu à ce moment-là, Dieu aurait pourvu, un petit peu comme Dieu a nourri Élie avec des corbeaux qui lui apportaient chaque jour de la nourriture. Mais il a douté de Dieu, il est parti en Égypte et puis là ça a mal tourné, il a menti par rapport à sa femme en faisant croire qu'elle était sa sœur. Il est revenu finalement en Canaan. Et puis là, à nouveau des problèmes surgissent, une querelle a éclaté entre les bergers de Lot et ses propres bergers. Donc Abraham vit toutes ces difficultés sur difficultés, mais la différence c'est que quand nous avons le Seigneur, nous connaissons des difficultés. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu chaque jour. Il est fidèle et il nous soutient, il nous relève. Après cette querelle, il y a une séparation entre Lot, qui est parti d'un côté vers la plaine de Sodome, qu'il voyait comme un jardin de délices, un jardin de l'Éternel. Il est allé installer, il avait dit au départ qu'il irait dans cette région, vers Sodome et Gomorre. Il pense avoir choisi la meilleure part. Abraham se retrouve donc dans la montagne. Mais on voit que Dieu vient le réconforter et lui donner cette promesse qu'il est toujours avec lui. Et frères et sœurs, c'est vrai pour nous. Quand nous sommes dans la difficulté, nous pouvons chanter ce cantique: Non, jamais tout seul, je ne suis jamais tout seul. Le Seigneur est fidèle et il veille sur nous. Dieu réconforte Abraham. Non, Abraham n'est pas seul. Peut-être il a été abandonné, peut-être c'est votre cas. Votre conjoint vous a laissé, vos enfants se sont tournés contre vous, vos amis sont détournés de vous, mais vous n'êtes jamais tout seul, parce que le Seigneur veille sur nous et il est fidèle. Et même si nous avons quitté des amis, nous avons peut-être quitté de la famille, nous avons quitté des connaissances pour la cause de l'Évangile, la Bible nous dit que nous recevrons au centuple de ce que nous avons laissé. Ne regrettons rien, frères et sœurs. Nous avons choisi, nous, la bonne part, c'est de suivre le Seigneur. Jésus le dit dans Marc 10, verset 29, « Car les disciples disaient au Seigneur, « Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, et pour Abraham c'était Lot, donc son neveu, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Voilà ce qui est promis dans la parole de Dieu. Donc nous avons peut-être perdu des personnes qui étaient des amis ou qui étaient des connaissances ou même de la famille pour la cause de l'Évangile. Mais rassurons-nous, frères et sœurs, il y a une autre famille, c'est la famille de Dieu. Et cette famille-là, elle n'est pas que à Toulouse-Ouest. Bien qu'à Toulouse-Ouest, c'est la meilleure partie de la famille de Dieu, puisque nous y sommes, gloire à Dieu. Toulouse-Ouest et Verdun-sur-Garonne, je n'oublie pas Verdun-sur-Garonne. Et puis après, il y a les autres églises de Toulouse, gloire à Dieu. C'est la famille de Dieu. Eh bien, nous avons trouvé une meilleure famille, c'est la famille de Dieu. Et les liens dans la famille de Dieu vont être parfois même plus forts que dans la famille du monde. Pourquoi ? Parce que nous avons le même Sauveur, le même Seigneur, et nous allons développer une relation fraternelle. Abraham a gagné. Même s'il a perdu sur le plan humain, il a perdu son neveu, qui est parti vers Sodome et Gomorrhe, il a gagné sur le plan spirituel, et on va voir que ça va avoir une incidence même pour son avenir et pour les bénédictions futures. Le premier point que je vois dans ce texte, c'est la bonté d'Abraham. Lot, on a dit, il a choisi pour lui les villes de Sodome et Gomorrhe. Au début, c'était la proximité, mais quand nous lisons ce texte, il était bien dans la ville de Sodome et Gomorrhe, de Sodome. Quand les ennemis sont venus attaquer la ville, il a été pris avec les autres. Une fois qu'on a commencé le compromis, peut-être on dira, je vais résister, je vais tenir, mais une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on se retrouve englué, et Lot n'a pas pu se dégager de Sodome et Gomorrhe. Alors, si vous lisez le début du chapitre 14 que je n'ai pas lu, vous verrez qu'à ce moment-là, il y a eu une révolte de la part du roi de Sodome vis-à-vis de ses dominateurs, parce que le roi de Sodome était sous un autre roi qui l'écrasait, qui le dominait, qui s'appelait Kedar Laomer. Et à ce moment-là, le roi de Sodome a dit « Je vais me dégager de ce carcan. » Mais il a pu un temps se dégager et le roi ennemi a réagi. Il était plus fort d'ailleurs. Et il est venu à Sodome et Gomorrhe pour mater la révolte. Et puis, on voit que Lot se retrouvait dans cette affaire. La ville a été dépouillée de ses biens, de ses personnes, et puis finalement, Lot, qui croyait avoir choisi la meilleure part, se retrouve dans un lieu de conflit, de combat. Le roi de Sodome, lui, il a fui, il s'est caché quelque part, loin de la bataille, mais Lot n'a pas eu le temps de fuir, il s'est retrouvé lié, prisonnier, contraint de suivre les prisonniers. Alors c'est là qu'on a des leçons à tirer, parce que quand on a choisi selon notre nature humaine, on a choisi selon la chair, selon les yeux, eh bien il y aura toujours des conséquences. Et maintenant, il va falloir qu'il paye les conséquences de ses mauvais choix. À ce moment qu'il a compris que c'était un mauvais choix, il aurait pu dire « je me suis trompé », revenir sur sa décision, revenir avec Abraham. Mais non, on voit que Lot va s'entêter. Et je fais une différence ce matin entre l'entêtement de Lot et la persévérance que nous devons avoir dans l'épreuve. L'entêtement, c'est négatif. L'entêtement, c'est quand vous allez être têtu à prendre une position qui n'est pas bonne. Vous allez vous entêter. Mais être persévérant, ça c'est une qualité. Et c'est ce qu'il n'avait pas justement, parce qu'il était entêté à faire sa volonté, mais il n'était pas persévérant à chercher la face de Dieu. Alors Lot, ici, dans notre récit, est appelé le fils du frère d'Abraham. C'était le neveu, donc, d'Abraham. La Bible dit, par ailleurs, qu'il était juste. Et ça, ça n'empêche pas qu'il fait des erreurs, mais qu'il est quand même un croyant. Il connaît Dieu. Il a choisi la facilité, il a commencé à payer le prix, mais maintenant, il est enlevé par des ennemis, mais Dieu veille sur lui quand même. Pourquoi Dieu veille sur lui? La Bible le dit, à cause d'Abraham, en fait, Dieu va veiller sur Lot. À cause d'Abraham. S'il n'y avait pas Abraham, on ne sait pas trop ce que ce serait fini pour Lot. Mais il y avait Abraham qui était son oncle. Et quand on touche à un croyant, c'est comme si Dieu dit, on touche à la prunelle de mes yeux dans Zacharie 2:8, ainsi par l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Et Dieu ne va pas laisser Lot à cause d'Abraham, parce que Dieu aime Abraham et Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham, que sa famille, tous ceux qui le béniraient seraient bénis. Et donc, Lot est rentré dans cette forme d'alliance. Abraham est ici appelé l'Hébreu. C'est la première fois qu'on voit ce terme dans la Bible. Abraham, l'Hébreu, au verset 13. On pense que ce mot hébreu vient de Héber, qui est un des ancêtres d'Abraham, et qui finalement a donné hébreu et le nom à la descendance d'Abraham, qui vont s'appeler le peuple hébreu. Il demeure dans les chaînes de Mamré. Mamré, ça signifie vigueur, prospérité. Et c'est là, frères et sœurs, que nous sommes plantés quand nous sommes justes. Au psaume 92, il est dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils poussent encore, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. » Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Regardez nos cheveux blancs, ils sont pleins de sève et verdoyants. Hein? Le feuillage est bien là, il est bien vert. Parce que si l'être extérieur se détruit, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et on bénit le Seigneur pour nos personnes âgées. Et on veut les entourer, les aimer et aussi prier pour eux. Parce qu'ils vont encore porter du fruit dans la vieillesse. Ils vont encore faire des choses pour Dieu. Quelquefois, il y en a qui me disent « Oh, mais moi, j'aimerais tellement partir auprès du Seigneur quand ils sont âgés. » Et quand bien les forces diminuent. Mais si nous sommes encore là, frères et sœurs, c'est que nous avons encore des choses à accomplir pour le Seigneur. Et un jour viendra où il viendra nous chercher. Mais pour l'instant, il y a encore du travail, il y a encore des prières à faire. Peut-être qu'on ne peut plus se déplacer nécessairement, on ne peut plus faire comme avant, mais on peut prier, on peut s'intéresser aux besoins et être utile dans l'œuvre de Dieu. Abraham, quand il entend que Lot a été enlevé, son cœur est touché. Ce qui nous montre la bonté d'Abraham. Parce qu'il aurait pu se dire, ben voilà, mon neveu a choisi sa voie, il a désobéi à Dieu, il n'a fait qu'à sa tête, il s'est entêté dans le péché, eh bien il n'a qu'à maintenant se débrouiller tout seul. C'est parfois une attitude que nous pouvons avoir. Mais Abraham, lui, ne va pas être indifférent, il ne va pas juger son neveu, en disant, ben, il le mérite bien, c'est sa faute, mais il va agir en sa faveur. Et Abraham ici, c'est un exemple, un type de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, malgré nos erreurs, malgré notre entêtement, malgré les fausses routes que nous avons prises, mais Dieu nous aime quand même parce qu'il a un plan pour nous, parce qu'il a un projet pour notre vie, et il veut que nous puissions revenir à lui et changer d'attitude. Et déjà dans la vie d'Abraham, nous voyons la grâce de Dieu, comme nous la voyons dans la vie de David, par exemple, dans l'Ancien Testament. Abraham a pu intervenir dans cette situation, il y a une raison précise, c'est qu'Abraham n'a pas fait le compromis. Il n'est pas allé à Sodome et Gomorre, et c'est pour ça qu'il a pu intervenir en faveur de son neveu. Et ça, c'est aussi les conséquences de l'obéissance à Dieu. Peut-être on va se moquer de vous en vous disant vous êtes chrétien, toujours à louer Dieu, à prier, à vous tenir dans la Bible. Mais le jour où ces gens auront un problème, eh bien, c'est vers vous qu'ils vont se tourner pour demander de l'aide. Et pourquoi vous pouvez les aider? Parce que vous n'avez pas fait le compromis avec ces personnes. Parce que si vous étiez avec eux dans Sodome et Gomorre, vous ne pourriez pas leur tendre la main pour les secourir au moment de venir à leur aide. Il y a un verset qui dit dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a des bonnes choses pour nous, mais il nous faut nous tenir à l'écart de Sodome et Gomorre, c'est-à-dire de la mentalité du monde et de sa vision qui est loin du Seigneur. Et le jour où des personnes auront besoin, parce que là, il va être dans le pétrin, Lot, il va avoir besoin d'une aide, il va avoir besoin d'une main tendue, il va avoir besoin d'un conseil, d'un secours, eh bien là, il va y avoir du respect, là, il va y avoir de l'honneur, il va y avoir un changement d'attitude. Quand les choses tournent mal, notre différence est un atout. Peut-être aujourd'hui c'est difficile parce qu'on nous a catalogués, on nous a dit vous êtes dans une secte, on s'est moqué de nous, mais le jour où la personne réalise son péché, eh bien il va y avoir un changement d'attitude. Abraham n'est pourtant pas un homme de guerre. Nous ne voyons pas qu'Abraham a déjà combattu quelque part dans la Bible avant cet événement. Mais néanmoins, il va se laisser inspirer par Dieu pour combattre. Il va choisir 318 de ses plus valeureux soldats, des braves, il dit ici, de ses plus braves serviteurs. Ce n'est pas des soldats, mais c'est des serviteurs. On voit bien que ce ne sont pas des gens de guerre. Il va les préparer pour faire une troupe qui va combattre. Et puis, il va faire une stratégie pour aller attaquer de nuit dans un certain angle. Tout cela montre que, même si nous n'avons jamais fait quelque chose, avec Dieu, nous pouvons être inspirés à faire la chose et la réussir avec succès, comme ça va être le cas d'Abraham. Lui qui n'avait jamais combattu de sa vie, eh bien, il a la stratégie, il a la manière de faire, et Dieu va l'inspirer, et ça va être un grand succès pour Abraham. On peut prendre l'exemple de David dans l'Ancien Testament, qui n'avait jamais combattu d'homme. Il s'était contenté à garder des troupeaux pendant son adolescence. Mais lorsqu'il voit Goliath, il y a quelque chose dans son cœur qui le touche, qui l'émeut, et il dit « Cet homme ne peut pas proférer des insultes contre le peuple d'Israël. » Ça l'a touché, un petit peu comme Abraham est touché par la situation de Lot. Et à ce moment, lorsqu'il se présente devant le roi, il dit « Moi, j'irai combattre Goliath. » Personne n'osait combattre Goliath, qui avait fait un marché, qui avait dit « Si vous arrivez à envoyer un soldat contre moi, eh bien nous nous rendrons avec toute l'armée. Si vous nous battez, nous rendrons avec toute l'armée. » Mais personne n'osait se battre contre Goliath, trop puissant. C'était un géant de 3 mètres de haut. Mais seulement David voit d'une autre perspective. Évidemment, si on voit d'une perspective humaine, on dira « c'est impossible, il n'y arrivera jamais », exactement comme le roi Saül l'a dit à David. « Tu es trop jeune, lui c'est un homme de guerre, lui il va te vaincre. » Mais non, David a une autre optique, en fait il a la vision de Dieu. Si nous n'avons pas la vision de Dieu, frères et sœurs, nous sommes perdus. Nous n'arriverons jamais à vaincre. Nous serons comme Saül. Mais David a une vision positive et il dit « Mais Dieu est avec nous, j'irai me battre avec lui et nous serons vainqueurs. » Il a pris ses 5 pierres, il a pris sa fronde et au nom de l'Éternel des armées, il a réussi à vaincre le géant. Il n'avait jamais combattu avant, mais Dieu lui a donné la force de pouvoir vaincre un géant du premier coup. Mais ça, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Et voyez, dans ce point, comme on le voit pour Abraham, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous qualifie pour faire des choses que nous ne savons pas faire à la base. Je prends l'exemple de cet homme qui s'appelait Smith Wigglesworth, qui a vécu entre 1859 et 1947. Il a été à l'école seulement jusqu'à 7 ans. À 8 ans, il a donné son cœur au Seigneur et il a appris à lire dans la Bible. Il a été très tôt employé comme plombier et il est devenu plombier. À l'époque, on pouvait faire travailler les enfants très tôt en Angleterre. Et il a commencé à faire ce métier de plombier jusqu'à l'âge de 48 ans. Il ne connaissait que la Bible, il ne lisait que la Bible. On pourrait dire qu'il était un peu limité au point de vue humain. Mais à partir de l'âge de 48 ans, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit afin qu'il commence à prêcher l'Évangile. Et il n'avait jamais prêché l'Évangile encore. Il avait juste cette connaissance de la parole de Dieu. Mais quand il a commencé à prêcher l'Évangile, il y a eu une grâce et une bénédiction sur son ministère, mais dès le début, si bien qu'il y a eu des conversions, des miracles, des guérisons, et qu'il a commencé à être invité dans les villes d'Angleterre et dans le monde entier. Et il a été un prédicateur international, alors qu'il partait de très très bas, très très loin, et jamais lui-même n'aurait pensé pouvoir voir ces choses. Parce que Dieu nous qualifie et il agit puissamment en nous. Ce qui est tout à fait étonnant dans son témoignage, c'est que lui-même était atteint de maladie. Il avait des calculs rénaux qui le faisaient souffrir intensément. Et pourtant, il priait pour les autres, et il y avait des guérisons. Et lui n'a jamais été guéri de ses calculs. Il était toujours soulagé, il était toujours remis d'aplomb, mais à chaque fois, il avait ces douleurs qui le relançaient, qui le tenaillaient. Et il a quand même vécu jusqu'à l'âge de 88 ans, et il a prêché l'Évangile vraiment jusqu'au bout, on peut le dire, puissamment utilisé par le Seigneur. Donc même malgré une faiblesse qui nous est laissée, nous pouvons quand même continuer à servir le Seigneur et faire la volonté de Dieu. Abraham donc a été vainqueur dans cette affaire, il a récupéré Lot, toute sa famille et tous ses biens. Mais ce qui me frappe en lisant ce récit, c'est que je ne vois pas Lot exprimer de reconnaissance envers Abraham. Il est ingrat, il manque des égards auprès de celui qui vient le sauver. Et ça, c'est vraiment l'attitude du croyant qui n'est pas reconnaissant, qui ne bénit pas, qui ne change pas d'attitude. D'ailleurs, il va tellement s'entêter que Abraham est venu le sortir de son bourbier. C'était l'occasion pour qu'il quitte Sodome et Gomorre, mais il va retourner dans Sodome et Gomorre comme si rien ne s'était passé. On voit qu'il ne tire pas les leçons de ses échecs. Il est un entêté, il est buté. Eh bien, Dieu va le laisser à son choix, à son sort, et on va voir que ça va avoir d'autres conséquences par la suite pour sa vie. Mais laissons-le de côté. Intéressons-nous maintenant aux deux rois qui vont venir vers Abraham à partir du chapitre 14 et au verset 17. Deux rois vont venir vers Abraham. Le premier s'appelle Melchisédek, roi de Salem, et le deuxième roi s'appelle Béra, roi de Sodome. Alors le premier, il nous est familier. Melchisédek, on le trouve dans l'Écriture, qui est une préfiguration de Jésus-Christ lui-même. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7 et au verset 3. Son nom signifie déjà « roi de justice ». Il est roi de Salem qui signifie « paix ». D'ailleurs, Salem, c'est l'ancêtre de Jérusalem. Hébreux 7, 3 dit « il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, il est rendu semblable au Fils du Très-Haut, c'est-à-dire Jésus. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. » Donc l'auteur aux Hébreux nous indique que Melchisédek est une figure dans l'Ancien Testament du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, et que son sacerdoce, en fait, Melchisédek, est tout à fait unique. Parce que, par exemple, si vous comparez avec Aaron, Aaron aussi était sacrificateur, et le sacerdoce d'Aaron s'est transmis de génération en génération. Fils d'Aaron, ses enfants, petits-fils, etc. Mais quant à Melchisédek, vous le voyez ici dans Genèse 14, il est mentionné dans un psaume aussi en référence à Melchisédek de Genèse 14, il est mentionné dans Hébreux, mais il n'est jamais dit qu'il a transmis son sacerdoce à quiconque. Pourquoi ? Parce qu'il est unique. Il est différent d'Aaron. Aaron était un homme mortel, mais Melchisédek est une figure de Christ dans l'Ancien Testament, donc son sacerdoce est unique. Et en fait, nous pouvons dire qu'il est notre souverain sacrificateur éternel. De même qu'il était là avec Abraham, il est présenté dans le Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux, eh bien nous disons ce sacrificateur éternel est avec nous, il est le souverain sacrificateur que nous louons, que nous adorons, c'est notre Seigneur Jésus. La Bible dit un détail intéressant, que ce Melchisédek, lorsqu'il vient rencontrer Abraham, il apporte du pain et du vin, qui sont des objets de sacrifice. Et nous comprenons dans le Nouveau Testament l'importance que va avoir le pain et le vin, image, symbole du sacrifice de Jésus lui-même. Il apporte la bénédiction lorsqu'il dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut » parce que Jésus vient apporter des bénédictions à son peuple. Et il révèle aussi un nom de Dieu à Abraham qui est El Elyon, le Dieu très haut, parce qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Et Abraham va reprendre cette expression dans sa prière en disant qu'il bénit le Dieu très haut. Donc on voit qu'il s'est approprié ce Dieu très haut, cette nouvelle révélation de Dieu, El Elyon, le Dieu très haut, et bien Abraham l'a saisi pour lui. Alors ça c'est vrai pour nous, nous allons découvrir des nouvelles facettes de Dieu au travers de notre cheminement spirituel. Bien sûr, on a découvert Jésus le Sauveur, quand on lui a donné notre cœur, ça c'est Jésus le Sauveur. Mais Jésus est aussi le Seigneur, c'est-à-dire qu'il dirige notre vie. Et si on s'arrête qu'au niveau du Sauveur, il manque une révélation. Parce que si on dit « Jésus est mon Sauveur » mais qu'on vit notre vie sans se conformer à ce que Dieu demande, on n'a pas compris qui est Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mais on peut connaître Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Si on est malade, on peut prier l'Éternel qui guérit. Si on a un besoin financier, on peut prier Yahvé, j'irai, l'Éternel pourvoira. Si on a besoin de consolation, Yahvé Ra, l'Éternel est mon berger et il console les cœurs brisés. Et si on a besoin d'une intervention dans un combat spirituel, on peut prier Yahvé Tsevahot, l'Éternel des armées, et il est toujours fidèle avec nous. Ça, ce sont des facettes de Dieu que l'on peut découvrir dans notre parcours. Abraham donc apprend que Dieu est le Dieu très haut, El Elyon. Il n'y a pas d'autre Dieu plus puissant que Dieu et il va l'adorer. Comment est-ce que Abraham va adorer ce Dieu? Il va lui donner la dîme de tous ses biens. Et c'est intéressant de remarquer que cette dîme, c'est la première fois qu'elle apparaît dans la Bible d'ailleurs. Et c'est avant la promulgation de la loi qui arrivera sous Moïse. Et nous voyons ici que la dîme, personne ne lui a demandé de donner la dîme ici, mais il l'a fait comme une expression d'amour et de foi envers Dieu. Il ne calcule pas, il ne voit pas ce qu'il peut perdre ou ce qu'il pourrait récolter, mais il donne librement. Cette dîme, donc, est une expression de sa reconnaissance envers Dieu. Après, il y a eu la promulgation de la loi et Jésus en a reparlé dans le Nouveau Testament en disant qu'il ne fallait pas la négliger. Donc pour nous, c'est une indication que nous devons apporter au Seigneur aussi cette offrande, cette dîme, c'est-à-dire les 10% de nos revenus pour le Seigneur. Ils appartiennent à Dieu. Alors, nous avons un exemple dans le Nouveau Testament qui est celui de cette femme à Béthanie qui a apporté un vase d'albâtre rempli d'un parfum de grand prix qui valait tellement d'argent qu'on aurait pu aider des tas de pauvres, etc. Et les disciples étaient choqués de voir que cette femme versait ce parfum sur la tête du Seigneur en disant « Mais nous pourrions vendre ce parfum et aider des pauvres. » Mais Jésus dit « Laissez-la, elle a fait une bonne action, une bonne œuvre. Elle a embaumé par avance ma tête en vue du sacrifice. » Parce que Jésus était toujours dans la pensée du sacrifice. Et le Seigneur ne reprend pas cette femme, elle a fait un acte généreux, elle a fait un don en fait à Christ. Un don, on pourrait dire, d'une grosse somme d'argent. Lot, quand il voit Abraham donner la dîme de tout, peut-être il réagit dans son cœur en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il donne tout cet argent ?» Parce qu'il ne comprend pas, il n'est pas spirituel. Peut-être il a pensé que cet argent, on aurait pu l'utiliser pour un confort meilleur, pour un avantage, mais non. Abraham, lui, il ne raisonne pas comme le monde, il ne raisonne pas comme son neveu, il raisonne selon la pensée de l'esprit. Et il va donner la dîme de tout. J'en viens au deuxième roi, qui s'appelle Béra, roi de Sodome. Et remarquez ceci, à la suite d'une grande bénédiction, donc Abraham a été vainqueur de Kedor Laomer, il vient de rencontrer Melchisédek, le roi de justice, roi de Salem, roi de paix, qui est Jésus, une préfiguration de Jésus-Christ. Et aussitôt après vient le roi de Sodome qui vient pour négocier des choses avec lui. Et ça, c'est une image du diable lui-même. Le roi de Sodome est une préfiguration du diable. Son nom signifie excellence. Il représente Satan qui se déguise en ange de lumière. Il ne vient pas sous son plus mauvais jour, mais il vient sous son jour le plus flatteur pour séduire le serviteur de Dieu. Et sa parole est révélatrice. Il dit à Abraham, au verset 21, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Littéralement, il dit au verset 22, « Donne-moi les âmes. » C'est exactement l'objectif du malin, récupérer les âmes et se les approprier afin qu'elles soient perdues pour l'éternité. Pourquoi ? Parce que ce qui a le plus de valeur, ce n'est même pas nos biens. C'est pour ça les richesses, même le diable peut donner des richesses. Parce que ça n'a pas de valeur sur le plan spirituel. Mais par contre, l'âme de quelqu'un, il n'y a pas plus de valeur qu'une âme. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Jésus a versé son sang précieux, ce qu'il y avait de plus précieux, de plus cher, a été versé pour racheter notre âme de la mort éternelle. Et notre âme a la valeur du prix du sang de Christ. Ce qui est le plus précieux, c'est notre âme. Notre corps lui-même partira en poussière, mais ce qui vivra après, c'est notre âme. Elle ira auprès de Dieu si nous croyons. Certains même ont vendu leur âme au diable. Pourquoi ? Parce que Sodome, le roi de Sodome veut des âmes. Ils ont vendu leur âme au diable dans l'espoir du succès. Et Satan peut donner du succès, il peut donner des richesses, on l'a vu ici. Il peut donner de la prospérité, du moment qu'il a votre âme. Cette gloire est momentanée, et même des chanteurs, je pense, de ce monde, qui ont eu un succès, et certains ont dit qu'ils avaient été inspirés, en une nuit qu'ils avaient reçu la chanson et qu'ils étaient dans des messes sataniques, ils avaient reçu les paroles et ça a été des grands succès. Mais ces personnes souvent sont mortes de mort violente quelque temps après. Pourquoi ? Parce que quand on a donné notre âme au diable, lui, il vient la rechercher d'une manière violente et terrible. C'est pourquoi Abraham ne fait pas de compromis. Il sait que le roi de Sodome apporte la malédiction. Contrairement à Melchisédek qui apporte la bénédiction, eh bien, le roi de Sodome, même s'il vient avec toute cette excellence, comme son nom l'indique, avec cette apparence de beauté, eh bien, en réalité, il apporte la malédiction. Si nous ne le discernons pas, nous pouvons tomber dans les compromis. Et là, il a été testé, Abraham, pour résister au tentateur. On a la même illustration lorsque Jésus a été baptisé. Il est sorti du Jourdain et il a été entraîné par l'Esprit dans le désert où il a été tenté par le diable. Et dans une des tentations, il y en a trois, mais dans la troisième, dans Matthieu, nous voyons que Satan a transporté Jésus sur une colline où il lui a fait voir tous les royaumes et les richesses de ce monde. Et il lui a dit, mais je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Toujours parce que les richesses ont peu de valeur pour lui, mais par contre, recevoir l'adoration, recevoir la louange, eh bien, c'est ce qu'il recherche. Un allié. Et Jésus a résisté avec une foi ferme, « Retire-toi de moi, Satan. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est-à-dire une réponse immédiate et particulièrement citant la parole de Dieu. C'est ce que fait Abraham. Abraham est ferme, catégorique. Il ne dit pas « Je vais réfléchir à ta proposition, je vais me concerter avec les autres. » Non, il sait que ça ne plaît pas à Dieu, c'est une malédiction, c'est un compromis. Il rejette. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et c'était à ce moment-là qu'il fallait résister. Mais néanmoins, le verset commence par se soumettre à Dieu. Si Abraham n'était pas soumis à Dieu à ce moment-là, il n'aurait pas pu résister au diable et le diable ne serait pas parti loin de lui. Tout dépend de notre relation avec Dieu. El Elyon, le Dieu très haut, celui qu'il vient de découvrir, il soumet sa vie à Dieu et ainsi il va prendre la victoire sur le roi de Sodome. Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il y a quelque chose que Dieu a placé en nous, le Saint-Esprit, cette présence qui est à nos côtés, qui nous rend fort dans les combats, mais il nous faut nous soumettre à Dieu. Les scientifiques ont découvert, il y a quelques années, c'était dans les années 70, une particularité d'un certains poissons qui s'appellent la sole de Moïse. Elle est très nombreuse, cette catégorie de poissons, dans la mer Rouge. Et ils se sont posé la question, mais pourquoi ce genre de poisson est plus développé ou se maintient en population alors que les autres sont dévorés par les requins? Et ils ont trouvé que ce petit poisson, qui est assez insignifiant en apparence, a une particularité qui lui permet de résister aux requins. Quand il est dans une situation de danger, il développe une certaine toxine qui fait que la mâchoire du requin va rester quelques secondes sans pouvoir se refermer dans un effet paralysant. Et ça lui laisse juste le temps nécessaire pour évacuer avant que le requin ne ferme la mâchoire. Et ils ont remarqué que, ainsi, la population de ce poisson, la sole de Moïse, restait stable et ne diminuait pas, malgré les grands prédateurs qui pouvaient le détruire facilement, parce que face à un requin, évidemment, il ne fait pas le poids, si on peut dire. Donc, Dieu a placé en nous quelque chose de spécial. Nous avons la force de Dieu en nous. Nous ne le savons pas toujours, mais l'Esprit de Dieu veille sur nous. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des victoires sur le malin. Parce que nous sommes en Christ, parce que nous sommes soumis à Dieu, ça ne dépend pas de nos forces. Comme la sole de Moïse, qui est un petit poisson, nous sommes finalement assez faibles. Mais en réalité, nous avons une force qui nous permet de résister au plus grand des prédateurs, qui est le diable lui-même, parce que nous connaissons Christ. Est-ce que nous connaissons ce matin El Elyon, le Dieu très haut? C'est lui qui est notre force. Comme Abraham, en conclusion, nous sommes à la croisée des destinées. Il y a deux rois qui se présentent sur notre route. Melchisédek, qui vient avec la bénédiction pour nous attirer à lui et faire de nous ses serviteurs, ses enfants. Et il y a toujours le roi de Sodome qui traîne dans les parages et qui vient nous détourner de la bénédiction, nous attirer dans des compromis, dans des choses vaines de ce monde. Mais ce matin, nous allons prier et demander au Seigneur sa grâce. Ce matin, je veux dire, comme David au psaume 31, mes destinées sont dans ta main. Elles ne sont pas dans les mains du diable, elles sont dans les mains de Dieu. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Frères et sœurs, vos destinées ne sont pas dans les mains du banquier. Vos destinées ne sont pas dans les mains d'un médecin. Vos destinées ne sont pas dans les mains d'un avocat. Vos destinées sont dans les mains du Dieu Tout-Puissant, El Elyon, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui que nous servons. Melchisédek nous a ouvert la voie, le chemin de la bénédiction. C'est pourquoi nous pouvons prier avec confiance. Le roi de Sodome voudra vous éloigner de Dieu. Il viendra au moment où vous ne l'attendez pas, peut-être après une grande victoire. Eh bien, il vient. De même que Satan est venu, alors que Jésus venait d'être baptisé, eh bien, il est venu pour le tenter, pour le détourner. Mais si nous sommes fidèles, frères et sœurs, nous serons gardés. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, ta parole.